Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Dites que point radio.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Mais c'est Loïc Tansé qui est là, politologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour.
Mais c'est Antoine Robitaille qui est là, à la place de Benoît.
Ben oui, exceptionnellement. Tu sais, comme je dis depuis le début de l'émission, Benoît, c'est comme Céline Dion. Quand il perd la voix, il annule tout.
Eh bien, je comprends, évidemment. C'est quelque chose d'important pour lui, je pense.
Ben, je comprends. Hey, dis-moi, la Cour suprême des États-Unis autorise le procureur de New York à recevoir ses déclarations d'impôts. Qu'est-ce que c'est?
Oui, je t'ai même pas écrit de qui, parce que c'est tellement évident. C'est de Donald Trump, évidemment. J'ai relu, effectivement, ce que je t'avais envoyé comme sujet, je ne l'ai même pas nommé. Mais on parle tellement des déclarations d'impôts de la Cour suprême, c'est évident que c'est de Donald Trump. Mais c'est une grosse défaite pour Donald Trump. Ça fait des années qu'il essaie d'empêcher les procureurs de New York, en particulier, d'avoir accès à ces déclarations d'impôts de 2011 à 2019. Et voilà que la Cour suprême, à l'unanimité, a dit « oui, c'est possible, pas d'autres commentaires ». C'est tout. Ça marche. Vous pouvez recevoir ça, a dit la Cour suprême au procureur de New York. Alors, ça signifie qu'il y a un problème. Toi et moi, on ne pourra pas le voir. Le plus grand public n'aura pas accès à ces déclarations d'impôts. Ça reste du domaine privé. Mais la Cour, donc les avocats, le jury, vont pouvoir voir ces déclarations d'impôts. Et ça signifie qu'il pourrait en résulter une condamnation de Donald Trump, parce qu'il y a beaucoup de choses à cacher, on a l'impression.
Ben oui, mais pendant la campagne, je pense que c'est fin septembre, le New York Times avait mis la main sur des informations, en tout cas sur les rapports d'impôts. Puis en 2016, il avait payé quoi? 750$ d'impôts?
Oui, c'était ça. C'était incroyable. Il avait mis la main sur une partie des rapports d'impôts. Pas sur tout, j'ai l'impression. Mais effectivement, on avait découvert, à bonne mémoire, qu'il avait payé la mirobolique pour la somme de $750.
C'est épouvantable.
Pardon? Incroyable. Mais il n'est pas seul à faire ça aux États-Unis. C'est un sujet de vantardise parmi certains milliardaires aux États-Unis. Et ben ça fait partie d'un problème beaucoup plus vaste de redistribution de la richesse qui est de moins en moins faite aux États-Unis.
Et de haine de l'État.
Oui.
Donner, tu sais, l'impôt, c'est presque considéré comme du vol, alors qu'on ne voit pas que ça pourrait aider, surtout avec une base fiscale comme les États-Unis, là, on pourrait en faire des choses avec... Ils sous-exploitent leur base fiscale.
Ben oui, puis tiens, regarde ce qui se passe aux États-Unis, encore en Texas,
c'est
où
ça.
Des compagnies ont augmenté les tarifs d'impôt de 70 fois. Parce qu'il y a eu la tempête de neige. Des gens se sont retrouvés avec des factures d'électricité mensuelles entre 5 000 et 15 000 dollars US.
Mm-hmm.
Parce que c'est une compagnie privée qui fait ça, parce qu'on a la haine de l'État, effectivement, parce qu'on ne croit pas aux entreprises d'État. Ben oui, mais écoutez, là, vous vous faites exploiter à tour de bras. D'accord, c'est la loi de la jungle, mais c'est le genre de choses qui se produit aux États-Unis, justement parce que il y a cet extrémisme anti-étatique.
Tournons nos regards maintenant vers la Birmanie, où il y a des manifestations de plus en plus importantes.
Oui, on sait qu'il y a eu un coup d'État en Birmanie, que les militaires ont pris le pouvoir, donc on a une junte qui est au pouvoir, et ça fait deux semaines que cette junte essaie, plus de deux semaines même, que cette junte essaie de calmer la situation. Ça marche pas, les gens descendent de plus en plus dans la rue. Et aujourd'hui, il y a une grève générale qui a commencé. Il y a beaucoup de gens qui sont descendus dans la rue, très très peu de policiers, mais le régime militaire a lancé des avertissements extrêmement durs en disant que ceux qui manifestent sont des anarchistes, des adolescents et de jeunes exaltés, et qu'ils vont périr.
Mm-hmm.
Ils vont périr s'ils descendent dans la rue. Donc, c'est plus que des menaces. Tu sais, si vous descendez dans la rue, on va vous tirer dessus. C'est exactement là où on en est. Mais ça passe vraiment pas bien ce qui se passe. Et en Birmanie, et ce qu'il faut rappeler, c'est que les moines bouddhistes sont du côté de la population et sont descendus manifester eux aussi. Ce qui est un très, très, ce qui est très important, ça montre vraiment la perte complète de légitimité du régime birman, du régime de cette junte militaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. On ne devrait pas dire une junte militaire, c'est toujours militaire, une junte. Mais tout le monde commet l'erreur.
C'est un pléonasme, alors. Oui. Mais est-ce qu'il va y avoir des sanctions de la part des pays européens, occidentaux?
Les Européens sont en train d'en discuter. Ils sont en train de faire une liste de sanctions contre les militaires birmans, contre les entreprises qui leur appartiennent. Mais le problème, c'est qu'on veut pas pousser la Birmanie non plus dans les bras de la Chine, Et mais ça, ça pose aussi ce problème. Donc, et puis en même temps, il faut faire quelque chose, faut montrer un appui à la population. Donc, on joue dans ces paramètres, et c'est très difficile effectivement pour les pays occidentaux de faire quelque chose.
Mm-hmm. Donc, prochain sujet, l'Algérie. C'est aujourd'hui le second anniversaire du soulèvement contre le régime. Là aussi, on parle de manifestations et de régimes minés.
Oui, exactement. Les Algériens sont un petit peu, ils tiennent bon, mais ils sont un peu déçus de tout ce qui se passe. Et on se demande bien où ça va aller tout ça, parce que le président Abdelmadjid Tebboune, qui la semaine dernière est revenu d'Allemagne où il était hospitalisé pour des complications à la Covid-19, a dissolu le Parlement et a décrété de nouvelles élections. Il a aussi accordé une grâce présidentielle à une cinquantaine de militants du Irak, donc le mouvement de contestation démocratique algérien.
Oui.
Et leur peine allait jusqu'à 2 ans de prison ferme. Donc c'est bien pour un certain nombre de ces personnes. On pense qu'il en restait environ 76 en prison. Ça montre une certaine volonté d'apaisement. Mais en même temps, Amnesty International en a profité aujourd'hui pour publier un rapport qui explique qu'en fait, il y a eu 2500 manifestants qui ont été arrêtés depuis 2019 et qu'ils ont subi dans certains cas de la torture, des mauvais traitements. Et donc, que le problème, c'est que le gouvernement essaie justement de faire peur aux gens, de faire peur à la population. Ça ne semble pas vraiment fonctionner. Et en fait, ce qui a arrêté les manifestations, c'est la Covid-19. Tout le monde reste chez soi, mais on sent bien qu'il n'y a rien de réglé en Algérie et que le feu couve et ça pourrait ressurgir à n'importe quel moment.
Mm-hmm.
J'ai une bonne nouvelle pour les Algériens, par contre, si tu veux. D'ici 6 mois, le pays va fabriquer le vaccin russe contre la Covid-19 et la population sera vaccinée donc à 70% d'ici la fin de l'année. Parce que les Russes ont quand même été les premiers à trouver un vaccin, le Spoutnik, qui quand même fonctionne bien. Il fonctionne à des taux de 90%.
Il paraît qu'il fonctionne très bien. Tout le monde est très, très... craignent ce vaccin. On est sceptique,
mais
finalement, les études ont vraiment démontré que ça fonctionnait.
Oui. Mais c'est curieux, au Canada, on n'a rien. J'ai l'impression qu'il y a une ex-ministre des Affaires étrangères du Canada qui y est peut-être pour quelque chose.
Ah ben oui, explique un peu, oui.
Ben oui.
Parce que Mme Freeland est comme... interdite de séjour, je crois.
Elle est ukrainienne d'origine, il faut dire. Il faut commencer par dire qu'elle est ukrainienne d'origine, qu'elle est très, très ukrainienne dans l'âme. Elle parle ukrainien à la maison, même si c'est la troisième génération d'Ukrainiens. Et en fait, elle a dirigé le Canada vers une politique étrangère qui ressemble beaucoup à une politique étrangère qui serait celle de l'Ukraine, en fait, à l'égard de la Russie. Et donc, elle est persona non grata en Russie. Et même si elle est plus ministre des Affaires extérieures, elle conserve quand même un poste. C'est important. Elle est vice-première ministre et c'est elle qui a en fait présidé à la détérioration des relations entre le Canada et la Russie. On aurait peut-être pu avoir le vaccin Spoutnik, n'eût été justement des agissements de Mme Freeland et de la haine.
Tu l'as fait ou c'est une hypothèse?
Oui, c'est de la haine. C'est de la haine. Elle est pas. C'est parce qu'il y a une différence entre le être ukrainien et être canadien. Tu sais, ça peut pas être la même politique étrangère. Et le Canada n'a pas intérêt à briser tous les ponts avec la Russie comme Mme Freeland l'a fait. On peut être en désaccord avec moi là-dessus, mais je pense que ce n'est pas une bonne politique. Et justement, parce qu'elle a tout bloqué, on n'a pas ces vaccins-là en ce moment auxquels on pourrait avoir accès.
Parlons maintenant du vif débat en France sur l'islamo-gauchisme.
Ça, c'est un beau débat.
Et qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme?
Mais c'est ça le problème.
Ça date des années 80, là, mais...
Oui, en fait, c'est un oxymoron. tu peux pas dire islamo-gauchisme, parce que le gauchisme, enfin la gauche en général, est athée, et puis, ou alors, elle est très très critique des religions. Donc, parler d'islamo-gauchisme est un problème, si tu veux, dans les termes lui-même. En fait, on parle d'islamo-gauchisme en France, le mot a changé. Hein. Au départ, c'était un mot qui désignait, semble-t-il, ça a été utilisé en Angleterre par des gens qui voulaient montrer qu'il y avait une similitude entre la lutte des prolétaires, dans la vision marxiste du terme, et la lutte des musulmans. Et puis, le terme a évolué, sa signification a beaucoup changé. Et finalement,
le grand philosophe Michel Foucault, tu te souviens, était allé voir ce qui se passait en Iran lors de la révolution.
Oui, oui.
Il avait été très, très sensible à la révolution islamique, islamiste même, je dirais. Michel Foucault, et c'est à partir de ce moment-là, là, dans les années 80, qu'on a parlé d'islamo-gauchisme en
oui,
France.
Oui, et la France avait soutenu stupidement l'ayatollah Khomeini, en s'imaginant que l'ayatollah Khomeini allait instaurer une espèce de démocratie en Iran, et c'est tout le contraire qui est arrivé. Il y a eu au contraire un système totalitaire qui s'est instauré. D'ailleurs, la France n'était pas seule, même les artistes iraniens, les intellectuels étaient sûrs que l'ayatollah Khomeini allait renverser le pouvoir du Shah et que ce serait une démocratie qui serait là. Pas du tout, c'est tout le contraire qui est arrivé. Mais donc, effectivement, c'est un terme qui traîne dans la langue française depuis quelques décennies. Et ça, finalement, ce que ça veut dire, ça signifie défendre l'islamisme sous prétexte qu'il ne faut pas être islamophobe ou faire le jeu du racisme systémique. C'est ça, finalement, que c'est devenu. Et donc, la ministre de l'Éducation, Dominique Vidal, a demandé au Centre national de recherche scientifique en France de faire une étude sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Alors, il y a eu un déluge de critiques, tu comprends bien, parce que les universités disent qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand est-ce que l'État se mêle des débats politiques et des débats, enfin, à l'intérieur même de l'université? C'est dangereux. C'est la gauche a dit qu'est-ce que c'est que ça, l'islamo-gauchisme? C'est nous faire insulte. Évidemment, il y a des musulmans qui ont dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'islamophobie. Alors, il y a un problème, donc, qui est un problème très réel en France, qui est que il y a une pénétration de l'islamisme qui est de plus en plus forte.
Ben oui.
Je t'apprends rien en te disant, je sais pas si t'as été dans certaines banlieues en France, de certaines villes. Il y a des centaines de banlieues qui sont entre les mains d'islamistes maintenant, qui imposent de fait leurs lois, leurs règles. On le voit très bien parce que les femmes ne sortent pas. Il y a une espèce de puritanisme en plus qui s'impose là-dedans, qui est le premier symptôme de ce genre de totalitarisme religieux. Il y a vraiment un problème. Et ça rejoint les universités maintenant, où dans certaines universités, on l'a vu dans des lycées entre autres, mais il y a des étudiants qui contestent les connaissances au nom d'Allah. Il dit, c'est pas dans le Coran, pourquoi nous parlez-vous de ça?
Ah oui.
Oui, ça va jusque-là. Donc, il y a des professeurs qui commencent à avoir un peu peur, qui se demandent s'ils doivent réagir. Et donc, on n'est plus dans des débats entre des chapelles d'idées à l'université, comme c'est parfois le cas. On est vraiment maintenant dans un combat qui est un combat politique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'écris ma chronique là-dessus aujourd'hui. Il faut, malheureusement, l'État doit intervenir parce que c'est pas un combat idéologique simplement entre des chapelles, c'est vraiment un combat politique et il y a vraiment un problème avec ces islamistes qui essaient d'instaurer en France même un État islamique.
Bon, ben, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement, Loïc Tassé. Alors, on se reparle peut-être demain, sinon dans 5 ans. Salut!
Salut!